Il allait vers l'étrange. Il nous est devenu familier.
Se dit lui-même toujours spectateur à mi-distance de la vie. Il dit je suis spectateur à mi-distance de la vie. Ou on trouve encore une phrase comme moi seul suis spectateur de l'orchestre. Il voit aussi la vie de cette manière distanciée. Et il se compare souvent à un homme qui regarderait la vie de derrière une fenêtre à travers laquelle il verrait le spectacle du monde, mais spectacle du monde dont il se sentirait un petit peu exclu quand même.
Prénom ?
Franz.
Nom ?
Kafka.
Sa date de naissance ?
Le 3 juillet 1883, d'une famille de commerçants qui commence à être bien établie à Prague. 5 autres enfants, les 3 filles, qui s'amusaient des histoires que Franz leur inventait, mourront en camp d'extermination.
Des études ?
Lycée allemand de Prague. Nous sommes sous l'Empire austro-hongrois et la langue allemande l'emporte encore sur le tchèque.
Son métier ?
Docteur en droit, spécialiste reconnu du droit du travail dans une grande société d'assurance. Il termine à 14h, il va faire la sieste, un peu de sport, voir ses amis et la nuit, il écrit dans le silence de la maison familiale retrouvée.
Un mariage ?
Inconcevable. Et encore moins la paternité, ça supposerait que Kafka ait le sentiment de vivre sur la terre ferme. 3 femmes néanmoins vont compter. Félix Boer, avec qui il rompra 2 fois des fiançailles désastreuses. Milena Jezenska, qui mourra elle aussi dans un camp nazi. Dora Dimant, qui aurait pu connaître le même sort.
Ses œuvres principales ?
Une petite partie seulement a été publiée de son vivant. Son ami Max Brod va contrevenir à son vœu, brûle tout ce que j'ai laissé inachevé. Et tout ce qu'a écrit Kafka reste ouvert, voire suspendu. Les aphorismes, les nouvelles et les romans. La colonie pénitentiaire comme le procès, le château comme la métamorphose.
Et sa mort ?
Le 3 juin 1924, aux côtés de Dora, qui lui avait apporté dans sa dernière année une sérénité nouvelle.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Eh bien, Kafka, on l'a beaucoup lu depuis un siècle. Et ses livres ont fait, à ceux et celles qui l'ont lu, l'effet d'un coup de poing sur le crâne, ou alors variante plus poétique, d'un coup de hache sur une surface gelée. Oui, mais ça concerne qui l'a lu. Le plus étonnant, c'est que les autres qui ne l'ont pas lu, quand il se passe quelque chose d'opaque, se regardent et disent « c'est kafkaïen ». En d'autres termes, et sur un ton fataliste, c'est comme ça, maintenant. Alors, cet homme, il plane au-dessus de nous un peu comme une autorité que nous ne parvenons pas à identifier tant elle est impalpable. Et le narrateur de ses romans avait le même sentiment. Dans le château, par exemple, il se tenait en bas dans le village, il voyait en haut une forteresse qui, recouverte de neige, se dissimulait dans le brouillard. Mais il va bien falloir que j'aille ouvrir les portes. Mais comment faire ? Kafka n'a quasiment vécu qu'à Prague. Un château domine la ville, le Hradčín, vers lequel convergent des ruelles sinueuses. Et Franz les connaissait par cœur, comme les églises, les palais, les tavernes obscures, pas seulement les grands cafés qu'il fréquentait le soir. Il aurait désiré que le fleuve de la ville emporte plus loin, mais c'est dans la Ultava, que domine le pont Charles, qu'il s'est baigné. Et non seulement il n'a pas quitté Prague, mais il n'est pas parvenu à s'échapper du foyer familial. En effet, comment se soustraire à la première autorité qu'il ait connue, celle de son père, Hermann, qui d'une voix sonore racontait sans cesse sa propre histoire sans laisser à ses enfants la liberté de dire la leur. Hermann, qui ne cesse d'apparaître dans le journal de Franz.
Il est désagréable d'entendre mon père raconter, en faisant sans arrêt des allusions au sort heureux de ses contemporains et plus particulièrement de ses enfants, les souffrances qu'il a dû subir pendant sa jeunesse. Personne ne met en doute le fait qu'il a eu pendant des années, à cause de vêtements d'hiver inadaptés, des plaies ouvertes aux jambes, qu'il a souvent eu faim, qu'il a dû traîner dès l'âge de 10 ans une petite charrette l'hiver et très tôt le matin à travers les villages. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que ces faits bien réels ne permettent pas, comparés avec cet autre fait bien réel que je n'ai pas souffert de tout cela, de conclure le moins du monde que j'ai été plus heureux que lui. Qu'il a le droit de se rehausser à cause de ses blessures à la jambe, de considérer et d'affirmer d'emblée que je ne peux pas reconnaître ses souffrances d'autrefois et qu'en conséquence, c'est précisément à cause de cela, parce que je n'ai pas connu les mêmes souffrances, que je lui dois une reconnaissance illimitée. Comme j'aimerais l'écouter s'il évoquait sans s'interrompre sa jeunesse et ses parents. Mais écouter tout cela dit sur un ton de vantardise et querelleur est très pénible. Il tape toujours et encore dans ses mains. Qui sait cela aujourd'hui? Que savent les enfants? Tu n'as jamais souffert. Est-ce qu'un enfant peut comprendre cela aujourd'hui?
Alors on est tenté d'avoir une représentation négative de Herman. Ça ne va pas être le cas de notre premier interlocuteur, Jean-Pierre Lefebvre. Il pilote la nouvelle édition de Kafka dans la Pléiade, qui s'achève. Il est venu sur le tard à l'écrivain, commençant à le traduire à 70 ans. Et du coup, il a commencé par considérer l'écrivain qui est mort à 41 ans. Un peu comme un fils. Et alors, Jean-Pierre Lefebvre s'est-il identifié au tonitruant Herman?
Fondamentalement, c'était quand même un brave type qui avait une histoire lui-même, qui était le fils d'un boucher cachère de la province bohémienne qui avait eu beaucoup d'enfants. Et donc, il avait fallu que les enfants travaillent très, très tôt. C'est quelqu'un qui est vraiment parti de rien, colporteur, qui a fini, disons, dans la peau d'un bourgeois de Prague, le père. Mais donc, il connaissait la fragilité de ce statut durement acquis. Et donc, il redoutait toujours que de la régression. Et les risques de régression ont évidemment toujours existé, parce que l'histoire n'était pas simple. Et il aurait voulu que Kafka l'aide, Kafka qui avait fait un diplôme de droit. Il était avocat. Et donc, comme on dit en Allemagne, Jurist kann alles, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quel métier un juriste, et donc il aurait voulu que son fils reprenne l'affaire qu'il avait si péniblement montée. Et Kafka ne voulait pas, il a freiné les quatre fers. Ça a été un des traumatismes, disons.
Alors on imagine toujours Kafka petit, mais il était très grand pour l'époque, 1m82. Et on l'imagine étroit. Il n'était pas aussi large que son père, mais il pratiquait beaucoup de sports, le tennis, la natation, l'aviron. Mais son corps l'a embarrassé toujours.
Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai par hasard parlé avec ma mère d'enfants et de mariage. Quelques mots seulement, mais pour la première fois, j'ai nettement remarqué à quel point la représentation que ma mère se fait de moi est enfantine et fausse. Elle me considère comme un jeune homme en bonne santé qui souffre un peu de se croire malade. Cette croyance disparaîtra d'elle-même avec le temps. Il est vrai qu'un mariage et l'arrivée d'enfants l'effaceraient très efficacement. Alors, l'intérêt pour la littérature se limiterait aussi à la mesure de ce qui est peut-être nécessaire pour l'homme cultivé. L'intérêt pour mon métier, ou pour l'usine, ou pour ceux qui viendraient à me tomber sous la main à tel ou tel moment, s'accroîtrait tout naturellement, très fortement et sans être dérangé. Il n'y a donc pas la moindre raison, pas la moindre cause de désespérer durablement de mon avenir. Un désespoir momentané, mais sans profondeur, n'est possible que si, une fois de plus, je crois avoir l'estomac détraqué, ou si, à force de trop écrire, je n'arrive pas à dormir. Il y a des milliers de possibilités de solutions. La plus probable est que je tombe soudainement amoureux d'une jeune fille et que je ne puisse plus me passer d'elle. Je verrai alors à quel point on me veut du bien et qu'on ne me gênera aucunement.
Tomber amoureux d'une jeune fille, c'était le vœu de la mère de Kafka. Quand apparut Félix Boer, la famille croyait avoir trouvé l'issue. Mais comme disait Franz, on ne sort pas si facilement l'animal de sa forêt. Une fois, 1914, une deuxième fois, 1917, il rompt ses fiançailles. La deuxième fois, dans le cadre d'un hôtel dont il se souvient comme d'un tribunal. Parce que il tire de ses reculades un sentiment profond de culpabilité. Il ne répond pas aux attentes des autres. Il n'a pas prise sur l'événement. Mais est-ce qu'il s'est vraiment dérobé ?
Dès le départ, il ne voulait pas, quoi. Quand, c'est quand même une lettre, il lui écrit « Faut que je te dise quelque chose ». Alors, c'est au début de leur histoire. « Je ne pourrai jamais te posséder ». Il utilise le verbe qui va attirer dans la littérature française. Parce que « posséder » en allemand n'a pas toujours ce sens-là. Mais il lui dit « Bon, ne compte pas avoir des relations sexuelles avec moi, ni des enfants, etc. » Moi, mon truc, c'est la littérature. Évidemment, on ne sait pas comment elle a réagi vraiment, puisqu'on a passé lettre à elle. Et tout ça se passe dans les lettres, puisqu'il ne se voit pas. Il se voit très peu. Quand il y va, s'il va à Berlin, une journée, il repart le soir même pour Prague. Il passe des nuits dans les trains. Et il ne se voit pas, donc voilà, c'est dans les lettres. Quelquefois, il se téléphone, et donc il lui dit ça. Puis après, il lui dit « Ah, il faut que je prévienne ton père de ça ». Puis bon, ça devient presque sordide. Et puis, alors on ne sait pas comment ça évolue, parce qu'on n'en parle plus après. Bon, Max Brod, je crois qu'il en savait beaucoup plus sur la vie privée de Kafka, qui avait un problème avec la sexualité aussi. On n'a jamais su exactement quoi, alors il y a des spéculations. Bon. Milena en parle, Milena dit, oui, ça le terrorise. En même temps, il s'était fait une réputation aussi de consommateur de prostituées à Prague. Il y avait à Prague et à Vienne, à cette époque-là, une prostitution dans les rues absolument considérable, qui a été réprimée, qui ensuite est rentrée dans les cases. Mais juste la pauvreté, évidemment, y mettait des tas de filles sur les trottoirs. Et donc, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, de temps en temps, il y a des allusions, mais il n'est pas très explicite. Et puis, c'est, par amitié pour lui, ses camarades qui en savaient plus n'ont pas dit grand-chose. Donc, voilà. Enfin, il y a tout, mais il y a une petite mythologie autour de cette question-là, chez Kafka. Bon.
Une famille juive, même peu pratiquante, des amis juifs, cela impose-t-il à Kafka une appartenance ?
Appartenance, mais c'est un mot difficilement concevable pour quelqu'un comme Kafka qui ne se sent jamais conforme et dont le souci de liberté individuelle s'accommode mal de l'autorité. Bon, il obéit tant bien que mal, un moment seulement, à la volonté d'assimilation de son père, qui ne veut pratiquer qu'un judaïsme discret. Mais il va bientôt déborder de ce cadre contraint.
Il a fait la bar mitzvah, il a appris le texte à réciter, et puis il a fait comme tout le monde. Quoi. Il connaissait pas un mot d'hébreu, mais il a quand même dû. Il a fait ce que font tous les gamins à cet âge-là. Et puis après, bon, il a surtout connu le pendant antisémite de la question, avec cette fameuse revue Autodéfense, Selbstwehr. Qui était l'organe des sionistes à Prague. Il y a collaboré, tout le monde y collaborait. Il était dans ce bateau-là. Et en même temps, lui, il se tenait au bord et regardait la mer. Mais il était, disait-il, athée, et je pense qu'il l'est resté. Mais il a été de plus en plus intéressé par la culture juive.
Oui, parce que à l'automne 1911, il découvre une troupe de théâtre yiddish venue de Lemberg, en Pologne, jusqu'à Prague, et qui le ravit toute la saison d'hiver qui suit. Il va l'applaudir chaque soir et le directeur de la troupe, Loïc, devient son ami qui proclame cette profession de foi.
Avant que vous entendiez les premiers vers des poètes juifs d'Europe orientale, je tiens encore à vous dire, mesdames et messieurs, combien vous comprenez plus de yiddish que vous ne le croyez. Le yiddish est la plus jeune des langues européennes, il n'a que 400 ans. Et en vérité, il est beaucoup plus jeune que cela. Sa forme est concise et rapide. Il n'a pas de grammaire. Les amateurs essaient d'en écrire. Mais le yiddish est constamment parlé, il ne parvient pas au repos. Le peuple ne l'abandonne pas aux grammairiens. Pour que le yiddish vous soit tout à fait proche, il suffit que vous méditiez le fait qu'en dehors de vos connaissances, il y a encore en vous des forces qui sont actives, des rapports de force qui vous rendent capable de comprendre le yiddish en le sentant. Restez silencieux et vous vous trouverez tout à coup au beau milieu du yiddish. Et une fois que vous aurez été ému par lui, vous ne reconnaîtrez plus votre calme d'autrefois. C'est alors que vous serez à même d'éprouver ce qu'est la vraie unité du yiddish. Et vous l'éprouverez si violemment que vous aurez peur, non plus du yiddish, mais de vous. Vous ne seriez pas capable de supporter cette peur si le yiddish ne vous communiquait aussitôt une confiance en vous-même qui peut tenir tête à la peur et se montre plus forte qu'elle. Au cas où elle se perdrait demain ou plus tard, et comment pourrait-elle se maintenir grâce au seul souvenir d'une unique soirée? Je vous souhaite de pouvoir oublier aussi la peur, car nous ne voulions pas vous punir.
Donc ça l'a fasciné et il s'est dit que c'était un modèle de littérature à laquelle était vraiment attaché quelque chose de vivant. Et il a suivi cette pente-là avec intérêt, et il s'est mis à lire des livres, il a appris l'hébreu tardivement, il a trouvé des professeurs d'hébreu, il en avait autour de lui, hein. Il avait personnel, disons, autour de lui pour s'initier, et puis même éventuellement pour lire le yiddish, il fallait qu'il connaisse un peu l'hébreu. Et puis le triomphe de toute cette évolution, ça a été la rencontre, alors qu'il était très gravement malade, de cette toute jeune fille, Dora Dimant.
Dora Dimant, sa dernière compagne, qui va lui donner son ultime leçon de choses juives. La jeune fille est en effet engagée aussi humblement que profondément dans le sionisme. Oui, mais peut-il approcher d'une communauté alors qu'il ne cesse de répéter « Je ne sais pas ce que j'ai de commun avec moi-même ». Venue des lointains, la voix de la germaniste Florence Banco, qui a beaucoup scruté de près le journal de Franz Kafka, et qui nous prévient.
Appartenir à une communauté qui serait forte d'une identité, c'est à la fois un souhait, un désir, mais un désir qui est effectivement toujours très lointain. On trouve en permanence, mais ça peut apparaître très contradictoire, mais Kafka est très souvent assez contradictoire dans ses affirmations. On peut à la fois trouver, dans le journal notamment, énormément de notations d'observations qui témoignent de cette fascination, justement, pour le folklore juif et yiddish, etc. Et en même temps, de notations qui pourraient paraître presque antisémites à certains moments.
Franz Kafka aujourd'hui. On a vu qu'il entend le yiddish, qu'il apprend l'hébreu, mais il vit en pays tchèque. De plus en plus tchèque, même à partir du moment où, en 1919, est acquise l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Mais une moitié peut-être des quelques 25 000 juifs qui habitent à Prague ont fait le choix de la langue allemande. Jean-Pierre Lefebvre.
Kafka est quelqu'un qui fait partie de la communauté germanophone juive de Prague, qui a vécu, pour un certain nombre de ses représentants, qui a vécu dans des familles où la langue allemande était d'acquisition récente et incertaine. Et dans sa propre famille, c'est pire que ça, parce que son père parle tout le temps tchèque. Et il parle pas très très bien l'allemand, évidemment il le comprend, et il est capable de s'exprimer. La mère est meilleure, mais les documents qu'on a de sa plume montrent que, elle parle une langue que j'appellerais prudente. Une langue prudente où on emploie toujours le même verbe parce qu'on est sûr de pas se tromper sur les formes. On emploie toujours les mêmes mots parce qu'on est sûr de pas se tromper sur le pluriel, etc., etc. C'est une langue qui est en cours encore d'acquisition. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas de Kafka, c'est-à-dire que Kafka, lui, devient vraiment quelqu'un de, en théorie, donc extrêmement compétent dans la langue allemande, dont il a conquis les mystères, en quelque sorte, et en même temps, il reste chez lui, et ça se voit précisément dans ses textes qu'il n'a jamais relus, notamment les lettres qu'il écrit à autrui. Il écrit toujours avec cette prudence. Par exemple, il utilise toujours le même adverbe pour dire « certes, il est vrai, toutefois et encore », etc. Vous voyez, là où un locuteur français disséminerait tout son lexique, lui, il dit toujours « alladings, alladings, alladings ».
Vous n'iriez pas jusqu'à dire, comme on le lit parfois, il écrit en allemand sans écrire en allemand.
Ah, jamais. C'est toujours de l'allemand, la grammaire est absolument correcte. Et alors le miracle, c'est qu'avec des moyens du bord qui peuvent sembler, comme on dit beaucoup, pauvres, hein, des tas de gens ont dit l'allemand de Kafka est pauvre. Avec cet allemand réputé pauvre, il arrive à produire des énoncés et des récits d'une grande force et d'une richesse étonnante. Et à mon sens, la clé de ce retournement, c'est que, justement, avec un lexique sommaire, un peu comme fait Beckett dans certains de ses textes en français, c'est une langue construite comme ça, il exploite cette simplicité et qui parfois pourrait surprendre, mais les termes, disons, répétés, etc., sont aussitôt investi par la totalité de l'histoire racontée. Leur nudité, alors là, je peine à l'exprimer parce que c'est complexe, leur nudité est aussitôt habillée par le contexte. Kafka ne fait pas comme les grands auteurs de la tradition, Thomas Mann et consorts. Il ne va pas aller chercher dans le dictionnaire, etc., d'une richesse lexicale considérable. Non, ne s'aventurant pas dans ces pratiques lexicales-là, il fait résonner dans ce qu'il raconte, il fait résonner le reste.
Monsieur Lebrun, un Allemand pauvre peut-être, mais une grande richesse de traduction?
Ben oui, si on prend simplement l'exemple de la France, avant Jean-Pierre Lefebvre qui achève avec une équipe la traduction de la Pléiade, le premier, ça a été Alexandre Vialat. Dès avant la Deuxième Guerre, il a apporté à Kafka toutes les richesses du grand écrivain qu'il était. Il y a eu parmi d'autres Marthe Robert, Robert Kahn, qui le premier a offert la version intégrale des journaux. C'est une tâche difficile parce que la langue de Kafka y apparaît dans sa nudité, avec des répétitions qui ne permettent aucun travestissement. Et il y a eu Georges Arthur Goldschmidt qui a donné une version incomparable du Procès, dont il discute ici avec Antoine Perrault.
Jemand musste Joseph K. verleumdet haben. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K. Car sans rien avoir fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière de Madame Grubard, sa logeuse, qui lui apportait son déjeuner tous les jours vers 8 heures, ne vint pas cette fois. Ce n'était encore jamais arrivé. K attendit encore un petit moment, appuyé sur son oreiller. Il surprit la vieille femme qui habitait en face en train de le contempler avec une curiosité tout à fait inhabituelle. Puis, tout à la fois affamé et un peu étonné, il sonna. On frappa aussitôt et un homme entra qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement. Il était svelte et pourtant bâti en force. Il portait un vêtement noir collant qui, comme les vêtements de voyage, était muni de divers soufflets, poches, boucles, boutons et d'une ceinture, et qui pour cette raison, sans qu'on sache très bien à quoi ce vêtement
alors donc, servir, nous avons là le procès de Kafka, le début en allemand, puis votre traduction chez Pocket, Georges-Arthur Goldschmidt. Mais cette traduction que nous avons, je me suis amusé à la comparer avec celle d'Alexandre Vialat, qui a longtemps régné sur les esprits. Prenons le tout début. Vialat, c'est « on avait sûrement calomnié Joseph K. » Vous, c'est « quelqu'un avait dû ».
Oui, parce qu'en allemand, ce serait « on », ce serait « man ».« Man musste K verleumdet haben » oder « man hatte ihn wahrscheinlich verleumdet ». Là, ça aurait été « on ». Mais il y a « jemand », ce qui veut dire « quelqu'un ». Moi, j'ai traduit rigoureusement ce que j'ai vu sous les yeux.
Voilà. Parce que ce qui est intéressant dans cette première phrase, « on avait sûrement » ou « quelqu'un avait dû
oui. »,
le « quelqu'un avait dû », qui est votre traduction, Georges-Arthur Goldschmidt, est beaucoup plus ancré dans le réel et joue carte sur table, même en français, je trouve.
Mais
que le « on avait sûrement », qui est presque un peu trop anguille.
On écrivait, on n'aurait pas admis que l'on traduisit autrement qu'il n'a traduit. J'ai parlé avec Vialat, j'ai eu la chance de le connaître. Il a fait des faux sens nombreux, mais ce qui n'a jamais empêché les gens de comprendre le texte, finalement. Mais je crois qu'on traduisait comme ça à cette époque. Vous savez, ce serait intéressant d'écrire l'histoire de la traduction. Hein.
Je prends juste un tout petit exemple. Quand, tout à la fois affamé et un peu étonné, il sonna. Et ça devient, puis affamé et étonné, chez Vialat, tout à la fois, il sonna la bonne.
Oui, qui est ajouté, ce n'est pas dans le texte.
Bon, c'est intéressant, dit Goldschmidt, de faire l'histoire des traductions de Kafka. Les traducteurs de Kafka peuvent aussi reconstituer, comment dire, d'un mot savant, la génétique littéraire du texte entré dans l'atelier de l'écrivain, Jean-Pierre Lefebvre.
J'ai découvert qu'en fait, il avait écrit la scène de l'arrestation de Joseph K. d'un trait... En quelques jours, il avait aussitôt écrit la fin, c'est-à-dire l'exécution dans une carrière dans la banlieue lointaine de Prague, sans doute. Donc, c'est une histoire sans algorithme. Il y a un événement initial, un peu problématique, avec des points d'interrogation, qu'est-ce qu'ils viennent faire et tout. Et puis ensuite, aussitôt, il est déjà mort. Sauf que lui, il l'a pas vu comme ça. Il savait très bien qu'entre les deux, il allait écrire une longue histoire et il l'a fait.
Il tend, avec un début et une fin, une corde entre le début et la fin.
Oui.
Et il sait comment il circule, tel un acrobate.
Alors
sur
non,
cette corde.
Justement. Il a les deux pôles, si vous voulez, du câble sur lequel le funambule va s'avancer. Mais en même temps, il ne sait pas exactement dans quel ordre il va lui faire ses expériences. Alors, bon, il y a un premier passage au tribunal, et puis un deuxième passage où il y revient, mais le tribunal devient presque autre chose, et puis il y a des rencontres. Il y a même des chapitres qui n'ont pas été insérés par Max Brod dans la publication du roman, qui sont restés à côté, et que visiblement Kafka avait installé dans des enveloppes en se disant... Je vais pas jeter ces papiers-là, peut-être que je vais arriver à en faire quelque chose. Il y a en particulier une enveloppe dans laquelle il est question de la mère de Kafka. Donc voilà, ça reste ouvert.
Ça reste ouvert. Joseph K., au moment où il va vers la mort, aperçoit d'ailleurs un homme à une fenêtre. Pourquoi cet homme gesticule-t-il ? Non, il semble qu'il tend les bras un signe, au final, de fraternité. Ça reste ouvert. Kafka, qui interroge les traducteurs, a inspiré des musiciens. Ainsi, voici une œuvre de 1948, de Maurice Jarre, inspirée du gardien du tombeau, avec tous les éléments qui conviennent. Des instruments de l'ombre qui viennent lutter avec ceux de la clarté, et même à l'intérieur d'un piano, un carillon qui vient marquer on ne sait quelle heure. Sont-ils le signe des feux de l'enfer? En tout cas, puisque nous naissons coupables, nous savons pas bien de quoi, il nous faut attendre la condamnation. Ce peut être l'aboutissement de toute une vie de finir, comme dans la colonie pénitentiaire, sur une machine qui vous mettra à mort. Kafka s'est toujours beaucoup intéressé aux machines. La colonie pénitentiaire, nous sommes dans une manière de bagne comme en établissent les pays d'Europe sous les tropiques. Il fait d'ailleurs étrangement chaud.
On aurait du mal à définir ce que c'est l'histoire de ce visiteur, de ce voyageur expert en droits de l'homme, qui vient dans une colonie pénitentiaire expertiser en quelque sorte les décisions des directeurs successifs de la colonie, et qui est amené tout de suite par un officier devant une machine à tuer, qui est une machine tout à fait, une espèce de machine à écrire, dont les touches seraient des lames qui fait rentrer dans le corps d'un individu couché sous la machine.
Le condamné se verra inscrire sur le corps avec la herse le commandement qu'il a enfreint. À ce condamné-ci, par exemple, l'officier désigna l'homme, on écrira sur le corps « Tu honoreras ton supérieur ». Le visiteur aurait voulu poser différentes questions, mais à la vue de l'homme, il se contenta de demander. Connaît-il sa sentence ? Non, dit l'officier, pressé de poursuivre ses explications. Mais le visiteur l'interrompit. « Il ne connaît pas sa sentence ?»« Non, » répéta l'officier, avant de rester muet un instant, comme s'il attendait du visiteur qu'il motive plus précisément sa question. Puis il dit « Ça ne servirait à rien de la lui annoncer. » Aussi bien il va la découvrir sur son propre corps.
Jusqu'au moment où, à la suite d'un incident de parcours, qui n'a rien de vraiment comique, pour montrer comment il faut faire, l'officier se couche à la place du condamné. Le condamné était déjà sur le point de succomber. Il est sorti de la machine et l'officier montre comment il faut s'y mettre pour que ça marche bien. Et à ce moment-là, la machine se met en route toute seule. Et le zigouille, mais de manière absolument épouvantable. Et le visiteur, l'expert visiteur en droit de l'homme repart un peu en catastrophe. Il y a des tas de détails dans cette histoire à laquelle Kafka tenait beaucoup d'ailleurs, car assez tard il a essayé de faire évoluer l'histoire, d'écrire des compléments. Enfin, on a retrouvé dans ses papiers des hypothèses de variantes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?
Toujours des hypothèses de variantes, comme le long du chemin du procès, il y avait des enveloppes de compléments. Qu'est-ce que Kafka a voulu dire ? Lui-même était-il sûr de le savoir ? En tout cas, le XXe siècle a pu identifier ce camp visionnaire il avait entreaperçu. Comment ne pas penser en le lisant au grand procès de l'époque stalinienne, quand les procureurs, aux manettes des machines judiciaires, prélevaient dans la population quantité de Joseph K., qu'ils accusaient de crimes imaginaires, trotskisme, anarchisme, espionnage, nationalisme ukrainien. Exemple, 1951, nous sommes dans la ville de Kafka, à Prague. La République populaire communiste de Tchécoslovaquie vient de s'établir, un de ses vice-ministres est soudain arrêté pour des motifs dont il ignore tout. Il s'appelle Arthur London. C'est Yves Montand dans le film L'aveu.
Mais que voulez-vous ? Mets-la chez moi !
Je vois un responsable du parti.
Taisez-vous, vous n'avez rien à demander.
Mais qui êtes-vous ? Je vous demande de voir un responsable
du parti. Taisez-vous !
Déshabillez-le. Facture, papier divers. Bouton de manchette. Stylo. Bouton de manchette. Montre. Clé.
Enlève.
Portefeuille. Portefeuille. 350 couronnes. 350 couronnes. Des cartes du parti. Deux cartes. Des photos de famille. Photos de famille. Des bons d'Arex. Pour 1200 couronnes. Pendant qu'on se sacrifie pour construire le socialisme, monsieur vivait comme un bourgeois. Votre numéro de matricule est 3225. Ne l'oubliez pas. Allez.
Marchez ! Défense de vous asseoir ! Défense de rester immobile ! Marchez !
À chaque fois que tu t'arrêteras, on te remettra les idées en place ! Non. Marchez ! Marchez !
Monsieur Lebrun, ne nous donnez-vous pas une vision excessivement noire de Kafka ?
Évidemment. Il n'est qu'à regarder les dessins qu'il faisait, qu'on vient de rassembler dans une édition française. Beaucoup de grotesques. Un Kafka espiègle. Franz n'était pas le solitaire triste qu'on imagine, bien plutôt un solitaire sociable. Dans l'enfance, il avait enchanté ses sœurs en leur servant constamment tout un répertoire d'histoires. Et plus tard, il amusait ses amis dans les grands cafés de Prague, où il ne manquait pas de se retrouver. Florence Branco.
Ah, il avait énormément d'humour, ce qu'on ignore souvent. Mais c'est vrai que Kafka faisait rire, mais vraiment mourir de rire, ses amis, auxquels il lisait souvent ses récits. Hein, il leur faisait la lecture. Bon, il fréquentait beaucoup hein, les cafés littéraires. Il était très entouré, Kafka. On le présente souvent comme un solitaire, très, très sombre. Mais il était très entouré, beaucoup, beaucoup d'amis et beaucoup d'esprit. C'est avéré hein, que je crois que quand il leur a lu quelques extraits de la métamorphose, ils étaient vraiment rayés aux éclats. Et puis dans son journal, et ça c'est une dimension qui a été révélée assez tard au grand public, dans son journal, il y a beaucoup, beaucoup finalement d'observations, de portraits, de caricatures de ses contemporains. Certaines de ces caricatures ayant été d'ailleurs très gommées, parce que censurées, par Max Brod, l'exécuteur testamentaire de Kafka, parce que ces caricatures étaient parfois un peu acerbes, hein, il y avait des jugements assez durs parfois sur certains de ses contemporains, ou des caricatures qui n'étaient pas tendres du tout. Mais il a vraiment beaucoup d'humour. Beaucoup de passages de ses romans, notamment de son journal, reprennent des thèmes fréquents qu'on trouve chez des humoristes juifs. Donc notamment aussi cette autodépréciation, se décrire comme un être laid, qui n'a pas de succès avec les femmes, chose qu'on retrouve par exemple chez Woody Allen, des parallèles qui ont été établis entre Kafka et Woody Allen. Kafka aimait beaucoup Chaplin, par exemple, hein, il était vraiment fervent admirateur de, de burlesque, etc. Donc voilà, toutes ces dimensions-là, on peut les retrouver dans ces textes, et notamment dans Le Disparu ou l'Amérique, selon la traduction, où beaucoup de caricatures, notamment de la grosse Brunelda, sont très, très, très savoureuses.
Mais oui, chez Kafka, il y a une attention au... Il y a comme ça une anthropologie de la comédie derrière. Il y a des personnages. Il y a la fameuse cantatrice dans America qui finit par retourner au tapin d'une certaine manière. Et c'est lui qui l'emmène. C'est le jeune Rossmann qui l'emmène dans une espèce de bouge sordide. Il y a plein de figures de... pas de la commedia dell'arte, mais il y a plein de figures comme ça de la comédie qui sont là, d'une comédie, presque d'une farce. Quand il a fait la première lecture à ses amis de La Métamorphose, ils se sont pliés en quatre, tous. Ils étaient morts de rire, et je les comprends. Je les comprends. Il est couché dans son lit, il peut plus bouger, il est transformé en cloporte, etc., etc. Il y a sa mère derrière, son père derrière, qui ne le voit pas. Donc ils sont dans le quiproquo absolu. Il y a une situation de comédie qui est très très forte. Et puis à un moment, il y a d'autres personnages qui interviennent. Il y a des personnages un peu comme les Dupont et Dupont chez Kafka, aussi des personnages, comment dire, ridicules. Alors bien sûr, à partir du moment... où on accouple le farcesque et l'absurde, l'angoisse, toutes ces réalités psychiques-là, ben soit on réussit, soit on manque complètement son coup. Et lui, il a réussi. Voilà. Ça, c'est indéniable.
Même si la tuberculose l'a saisi dès 1917, il passe quelques mois paisibles à Berlin, à la fin de sa vie, en compagnie de Dora, dans une maison, avec un jardin, prélude à ce qui aurait pu être un pays de lait et de miel. Enfin, dans un texte tardif, il songe plutôt à un terrier qu'il aurait pu s'aménager.
Ce qu'il y a de plus beau dans mon terrier, c'est son silence. Certes, il est trompeur, il peut être soudainement interrompu, et alors c'est la fin de tout. Mais pour l'instant, il règne encore. Je peux déambuler des heures durant dans mes galeries sans rien entendre d'autre que, parfois, le frottement d'une quelconque petite bestiole que je calme aussitôt entre mes dents, ou un ruissellement de terre qui me signale la nécessité de quelques réparations. Sinon, tout est silencieux. L'air de la forêt pénètre doucement. Il est tout à la fois chaud et frais. Parfois, je m'étire et me tourne et retourne dans la galerie, tellement je suis bien. En vue de la vieillesse qui approche, il est bon d'avoir un terrier comme celui-là, de s'être mis un toit sur la tête quand commence l'automne. Tous les 100 mètres à peu près, j'ai élargi les galeries pour en faire de petites places rondes où je peux confortablement me mettre en boule, profiter de ma propre chaleur et ne plus bouger. Je dors là du doux sommeil de la paix, du désir calmé, du but atteint, de la possession d'une maison. Je ne sais pas si c'est une habitude de l'ancien temps ou si les dangers qui, malgré tout, menacent jusqu'à cette maison sont assez forts pour me réveiller, mais régulièrement, une frayeur soudaine me tire en sursaut d'un sommeil profond, et alors je tends l'oreille. J'essaie de percer ce silence qui règne ici immuablement, jour et nuit. Je souris, rassuré, et plonge tous les membres détendus dans un sommeil encore plus profond. Pauvre voyageur sans maison, sur les grandes routes, dans les forêts, blotti au mieux dans un tas de feuilles ou au milieu d'une harde de camarades, exposé à toutes les malédictions du ciel et de la terre. Je suis couché là, sur une place protégée de tous côtés. Il y en a plus de 50 du même genre dans mon terrier. Et je sens s'écouler alors entre la somnolence qui gagne et le sommeil sans conscience, les heures que je choisis à cette fin, comme bon me semble.
C'est un très long récit dont le locuteur est un blaireau, mais qui n'est jamais décrit comme blaireau. Il est décrit comme un animal, à la limite un mammifère, qui pourrait fort bien être un humain, qui d'ailleurs a bien des égards, un être humain, qui est complètement paranoïaque et qui sait... protégé de toutes les menaces qu'il perçoit dans l'univers, donc dans la forêt où il évolue, en trouvant refuge dans un terrier, donc dans le terrier d'un autre animal, c'est d'ailleurs une... Kafka lisait beaucoup d'ouvrages de scientifiques, de vulgarisation, et il savait tout sur le blaireau, de même qu'il savait tout sur le cloporte dont il est question dans La Métamorphose, parce qu'il avait des ouvrages de... Il avait même chez lui des ouvrages de grande vulgarisation qui étaient presque scientifiques sur tous ces animaux. Et donc ce blaireau a usurpé la demeure d'autrui. C'est un... paranoïaque qui a toujours peur qu'on l'agresse, qui est mangé par l'angoisse d'être agressé, qui décrit sa stratégie d'accumulation boulimique de trésors, c'est-à-dire de viande qu'il a chassée à l'extérieur et qu'il stocke dans des salles spéciales de son univers
labyrinthique,
dans son terrier, voilà, dans son labyrinthe. Il faut dire que le mot en allemand qui désigne le terrier, der Bau, ça veut dire aussi la construction. Donc c'est un peu un palais, en quelque sorte, cet univers souterrain.
Oui, mais le blaireau, ça pourrait être aussi bien un humain, Kafka lui-même. Il entend dans le silence un bruit qui signifie un danger qui vient, parce qu'il est de plus en plus fort. Alors il fouille pour identifier l'endroit dont provient le bruit. Et il fait s'effondrer le terrier sur lui. Nous sommes maintenant en 1924. Kafka est de plus en plus malade. Il revient à Prague. Son état s'aggrave encore. Le larynx est atteint. Il ne peut plus rien avaler. Il faut le transférer dans un institut spécialisé, dans un autre encore. Il souffre tant qu'il a cette formule en direction d'un ami médecin. « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin. » Il meurt en juillet 1924 et il va trouver le terrier qui lui convient le mieux, le cimetière juif de Prague. Il s'en est retourné à ce qu'il fut, l'inexplicable. Remerciements à Florence Banco, dont les ouvrages sur Kafka sont publiés soit au CNRS, soit chez Belin, et à Jean-Pierre Lefebvre, qui achève avec une équipe l'édition nouvelle des traductions de Kafka dans la Pléiade, sortie des deux derniers volumes dans peu de semaines. À la technique Yves Lehors, à la maison de la radio et de la musique Pauline Laverdure, les lectures Grégoire Roqueplot, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.